Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du MEDEF. La France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Voilà le constat quasiment sans appel que vous faites de notre France. Et vous avez des solutions, vous promettez, et c'est presque une campagne électorale, que vous avez les moyens de rapprocher le net du brut, de payer mieux, que le travail paye mieux. On va y venir dans un instant, mais d'abord, évidemment, la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Les entreprises, est-ce qu'elles tournent au ralenti? Quel est l'impact sur l'économie?
Secteurs qui, au contraire, sont surchauffés, si j'ose le terme. Évidemment, tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces, etc. Mais enfin, c'est très minoritaire. Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et dans, au cas par cas, moins de travail.
Ça aura des conséquences, parce que quand vous dites effectivement qu'il faut protéger ses salariés, les chefs d'entreprise ont la responsabilité des conditions de travail de leurs employés, et donc, en ce moment, parfois d'adapter les horaires, voire même de dire aujourd'hui vous n'avez pas bossé quoi.
Absolument. Enfin, quand par exemple le télétravail est possible, mais ça suppose que les salariés en télétravail et eux-mêmes une climatisation, en tout cas.
Et qu'ils soient mieux chez eux qu'au boulot. Hein.
Et puis il y a le problème des transports en commun, enfin beaucoup de choses. L'année dernière, l'INSEE, on a eu quelques pics de chaleur l'année dernière. Mmh. L'INSEE n'avait pas su mesurer si ça avait un impact direct sur l'activité. Mais par exemple, les assureurs ont chiffré que dans les 5 prochaines années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 milliards d'euros à la France. Donc il faut s'y préparer et il faut se protéger.
Qu'est-ce que vous pensez du congé climatique ?
J'en pense pas de bien parce que c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ça n'exclut pas qu'on prenne des mesures instantanées de protection contre la chaleur, le cas échéant contre le froid. Enfin, on va devoir faire face à un mur d'investissement précisément pour se protéger de ces dérèglements climatiques et puis pour décarboner notre économie. Si on travaille moins, on produit moins. Or, le problème de fond de la France, c'est qu'on ne produit pas assez. Donc un congé climatique, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire.
Donc dans les faits, vous dites, au cas par cas, les patrons s'adaptent et disent, aujourd'hui on va pas bosser, on fait attention, on adapte les horaires. Mais l'idée d'avoir vraiment 5 jours de congé climatique qui sont officiellement rajoutés dans le Code du Travail, vous êtes contre?
Totalement contre. Totalement contre, à nouveau, parce que ça nous priverait d'une capacité d'investissement si nécessaire pour prévenir les conséquences de ce dérèglement climatique, et parce que d'une manière générale, mais c'est une philosophie, je dirais, de qui promeut ce congé climatique, la décroissance n'est certainement pas la solution.
Ça vient de Marine Tondelier, du parti des Verts. Ouais. Pour vous, c'est pas du tout la bonne logique.
C'est chronique. Si on les écoute, il faut toujours moins travailler. Moi, je constate que l'aspiration majoritaire, largement majoritaire et chronique de nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat. Faudra qu'on m'explique comment on peut gagner plus en travaillant moins.
Patrick Martin, justement, vous le dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Pour vous, est-ce que c'est fichu ou est-ce qu'on a les moyens quand même de sortir de ce marasme?
Ah, c'est pas du tout fichu. On a produit hier un document.
Vous êtes venu avec un document, ça s'appelle Carte sur table.
Qui dresse un diagnostic d'un certain nombre de chapitres, je dirais. Mais effectivement, du décrochage que l'Europe a par rapport au reste du monde, la Chine, les États-Unis en particulier, sur les plans technologiques, financiers, industriels. Et puis la France à l'intérieur même de l'Europe. Est-ce que ça aboutit à une résignation? Absolument pas. Nous, on est convaincus que la France d'abord a des talents incroyables, qu'elle ne sait pas à ce jour les mobiliser, mais qu'on doit le faire. Et donc, on fait en regard de ces diagnostics un peu inquiétants des propositions. Je cite juste un chiffre. Dans les années 60, il fallait 16 ans à un Français pour doubler son pouvoir d'achat. Dorénavant, il faut 106 ans. Alors, faut pas s'étonner que les gens n'aient pas le moral, qu'ils aient des problèmes de pouvoir d'achat. Nous, on veut réunir les conditions, elles existent, pour redonner du pouvoir d'achat par l'emploi, par le travail, de sorte que tout le monde ait la patate.
Pour que le travail paye, vous dites que vous avez un grand plan pour les salaires, ça marcherait comment ?
Alors, on a deux sujets, le niveau de la protection sociale et le financement de la protection sociale. Le financement de la protection sociale, c'est un cas unique au monde, repose beaucoup sur les entreprises et sur les salariés. Donc on a fait effectivement des propositions qui permettraient d'améliorer les salaires nets dans les entreprises, d'alléger les charges pour les entreprises pour qu'elles gagnent en productivité, en compétitivité, et puis qu'on génère de la croissance et de l'emploi. Je suis probablement déjà trop long, mais le plan
qu'on
propose générerait 260 000 emplois.
Je veux comprendre comment ça marche. Alors, vous nous promettez effectivement 260 000 emplois. Alors, j'avoue que moi, maintenant, je juge sur preuve, parce que je me souviens d'un de vos prédécesseurs qui avait ce fameux pins avec marqué 1 million, qui promettait 1 million d'emplois. On les a pas totalement vus venir quand même, les 260 000. Vous pensez vraiment qui serait là?
À mon ami Pierre Gattaz s'est lourdement trompé, parce qu'en réalité, ce sont 2 millions d'emplois
qui ont été
générés par la politique de l'offre que tout le monde stigmatise maintenant, qu'on est en train de détricoter à bas bruit, mais qui a donné en termes de croissance, d'attractivité, d'emploi et de pouvoir d'achat, d'excellents résultats. Donc Pierre Gattaz avait raison.
Pour vous, il avait raison. Ouais. Bon, mais vous, les 260 000, ils s'ajouteraient à tout ça sans qu'il y ait des pertes d'emplois par ailleurs?
Mais il y aura de toute façon des pertes et des créations d'emplois. L'économie est en train de muter à toute vitesse, dont autour de ces phénomènes climatiques, l'intelligence artificielle, etc., etc. En net, ça générerait 260 000 emplois.
260 000 emplois en net. Et justement, le net et le brut, cette baisse massive des cotisations, évidemment, il va quand même falloir trouver de l'argent ailleurs. Pour vous, il y a notamment deux pistes. La CSG, les retraités les plus riches, et de l'autre côté, la TVA, qui là serait pour tout le monde 2 points de plus.
Nous, on demande le transfert de 60 milliards de cotisations sociales, maladie et famille, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises et les salariés qui financent un système dit de solidarité. À la fin, le gain pour les entreprises serait de 16 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État économiserait 30 milliards sur les fameuses aides aux entreprises. Ça veut dire que les salariés gagneraient 10 milliards, parce qu'on prendrait en charge une partie de leur cotisation en retraite, je ne rentre pas dans le détail, et effectivement, il y aurait un certain nombre de dispositifs qui sont favorables aux retraités aisés, j'insiste, aux retraités aisés, et par ailleurs, un transfert...
À partir de quand vous considérez qu'un retraité est aisé?
À partir de 2000 euros de pension mensuelle.
Donc ce ne serait que ceux qui gagnent plus de 2000 euros de pension mensuelle qui contribueraient davantage.
Et un transfert effectivement vers le taux normal de TVA. J'insiste sur deux points. Le premier, ici et là, on me dit TVA sociale, c'est scandaleux, moi vivant.
J'ai envie de vous dire que pour le coup, c'est déjà venu et ça a rarement trouvé écoute chez les politiques,
mais
la
existe.
Fameuse TVA sociale.
Elle est en place déjà. Il y a déjà 50 milliards de protection sociale qui sont financés par la TVA et 130 par la CSG. Donc, en faire une affaire de principe, c'est de la mauvaise foi. Ça existe déjà. Ensuite, nous, on pense qu'il ne faut pas toucher au taux de TVA réduit. C'est l'essentiel des achats alimentaires. Enfin, il n'y a pas de TVA sur les loyers. Les deux postes de dépenses principaux des ménages modestes, c'est les loyers, l'alimentation.
Et ça,
donc zéro impact.
L'alimentation, en tout cas le panier effectivement des denrées nécessaires, lui, ce serait une TVA réduite qui resterait réduite.
Le même taux.
Il n'y aurait pas d'augmentation sur le reste, en revanche 2%. Vous pensez vraiment
2% qui nous mettrait à peine dans la moyenne européenne.
Mais vous pensez vraiment, Patrick Martin, qu'un politique, là, à un an des élections, va s'emparer de votre carte sur table, comme vous dites, de vos propositions?
C'est évidemment un dilemme. Qu'est-ce qui permet de gagner? Il vaut mieux être soft, voire un peu démagogique. Et qu'est-ce qu'un homme d'État? Bon, je pense qu'on est dans une situation telle, on le voit à travers la faible croissance, on le voit à travers des destructions d'emplois, on le voit à travers le déclassement de la France dans le monde et par rapport même à l'Europe. Donc à un moment donné, si on ne prend pas acte autour de ces diagnostics carte sur table qu'il faut se ressaisir et que les solutions existent, eh ben on va continuer à décliner et ça va encore accentuer les tensions qui existent dans le pays et ça ne répondra pas à la demande des Français, le pouvoir d'achat. Il faut créer des emplois et pouvoir augmenter les salaires.
Vous dites, Patrick Martin, il faut que les Français puissent avoir la patate. Est-ce que les patrons que vous voyez aujourd'hui, ils ont la patate? Ou est-ce qu'ils sont, on parle beaucoup du moral des ménages, qu'en est-il du moral des entrepreneurs?
Le moral des entrepreneurs n'est pas bon, alors ça va sans doute s'améliorer si ce qu'on nous annonce au Moyen-Orient se met en œuvre. La réouverture du détroit d'Ormuz, ça a pesé quand même. Mais surtout, on se désole de voir la glaciation du paysage politique. Rien ne va se passer avant l'élection présidentielle, on n'est même pas sûr que cette élection présidentielle et les législatives qui suivront apporteront des solutions. Et nous, on a besoin de lisibilité, de prévisibilité. Et tout ça advient à un moment où la concurrence internationale...
Il ne se passe rien. Vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien.
Il se passe
on gère
rien.
Les affaires courantes.
Il se passe rien, mais c'est... presque pire. C'est-à-dire que pour faire face à une situation budgétaire qui est dramatique, on détricote cette fameuse politique de l'offre qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on alourdit encore le coût du travail, au même moment où on nous demande d'augmenter les salaires, on ampute nos marges de manœuvre, et tout ça est fait à bas bruit. Donc, moi, je n'accable évidemment pas le gouvernement, ça serait irrespectueux, mais il n'a pas de marge de manœuvre. Le vrai problème, c'est le Parlement.
Le problème, c'est le Parlement, les marges de manœuvre. Patrick Martin, vous craignez une reconduite de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés en 2027. Ça, pour vous, c'est le coup de grâce ?
Alors, le coup de grâce, c'est beaucoup dire, mais d'abord, c'est un engagement pris par les pouvoirs publics. C'est quand même bien quand l'État honore sa parole. C'est vrai en matière budgétaire, mais c'est vrai d'une manière générale.
Bah, oui, c'était des taxes exceptionnelles qui deviennent de moins en moins exceptionnelles.
Bah, il était dit qu'elle devait disparaître au bout d'un an. Elle a déjà été prolongée une première fois. Je crains qu'elle le soit une deuxième fois. Il y a d'autres annonces qui avaient été faites, qui allaient dans le sens de la compétitivité, de la dynamique économique, de l'emploi, etc., qui n'ont pas été suivies des faits. Ça pose un problème très général, c'est pas spécifique au budget. Le discrédit de la parole publique est très grave. On le voit sur d'autres sujets, vous me comprenez. Et donc, moi, je suis viscéralement, le MEDEF est viscéralement républicain, démocrate, etc. Il est important que l'État fixe une ligne et se tienne à cette ligne. Le fait qu'il y ait ces coups de godille, ces errements, ces contradictions, tout ça est profondément déstabilisant. Alors, d'un point de vue psychologique, mais c'est pas neutre la psychologie d'un point de vue économique, mais ça se traduit dans les actes ou dans les non-actes. C'est-à-dire, on n'investit pas, on n'embauche pas, parce qu'on se dit à quelle sauce va-t-on être mangé.
Est-ce que ça veut dire aussi, Patrick Martin, qu'il y a certains patrons qui font planer une sorte de menace en disant, voilà, si on reconduit cette sorte de surtaxe sur les profits, alors il faudra en tirer les conséquences. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot. Lorsque vous entendez Patrick Pouyanet qui régulièrement aussi brandit cette menace, le patron de Total, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ? Quelle est la vraie menace ? Est-ce qu'il y a un risque qu'un certain nombre de patrons déplacent le centre de gravité de la France vers un autre pays d'Europe, voire même vers les États-Unis ?
Mais je crois qu'il ne faut pas inverser les rôles. Ce sont les errements des politiques publiques qui menacent les entreprises et leurs dirigeants. C'est pas les entreprises et leurs dirigeants qui menacent les pouvoirs publics. Nous, on est pragmatique et factuel. À un moment donné, si les conditions de survie ou de profitabilité d'une entreprise sont mises en cause, le moins que puisse faire un dirigeant, qu'il soit patrimonial ou pas, c'est de sauver l'entreprise. Donc, c'est terrible. Mais c'est vrai, à un moment donné, pour assurer la survie de l'entreprise, il faut faire des arbitrages.
Vous comprendriez qu'à un moment, si c'est trop, certains patrons un peu emblématiques disent, écoutez, finalement, on va sur la bourse de New York, on part, comme ça avait pu être évoqué par Total.
Nous sommes des femmes et des hommes d'honneur, pas au point de mourir au champ d'honneur. C'est-à-dire la vocation d'un chef d'entreprise, c'est de faire prospérer et durer son entreprise. Si à un moment donné, par supposé patriotisme, il doit sacrifier son entreprise en brandissant un étendard, ça n'a aucun sens, dont pour les salariés de la dite entreprise.
Ça veut dire que le patriotisme, c'est jusqu'à un certain point, à vos yeux.
Mais non, mais attendez. On ne salue pas assez le mérite des entrepreneurs français, qui sont les plus, je parle des entreprises plus que des entrepreneurs à proprement parler, ce sont les plus taxés au monde. Si nous étions cyniques et antipatriotes, c'est pas votre propos, tout le monde serait parti. On est là. On croit en la France, on fait des propositions pour la redresser, et moi je suis le premier, pour ma propre entreprise, à continuer à investir en France. J'aurais des actionnaires étrangers, ils me diraient, mais t'es un gros timbré.
C'est d'ailleurs toute la question. On va y venir à cette question des actionnaires étrangers, des fonds de pension notamment, qui sont ciblés par un certain nombre de députés comme étouffant des entreprises françaises. Il y a un seuil de douleur avec l'impôt, c'est ce que vous dites.
Il y a un seuil de douleur avec l'impôt. Mais pardon, je réagis à ce que vous disiez. Quand on regarde la part de l'épargne des Français qui est fléchée vers les entreprises, c'est 19%. Aux États-Unis, c'est 86%. En Suède, pas bien loin la Suède, 83%.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire par là que, parce que pour des raisons idéologiques, on dit il faut pas qu'il y ait de fonds de pension, de retraite par capitalisation, on livre une bonne part de nos entreprises, en particulier cotées, à des actionnaires étrangers, fonds de pension ou pas d'ailleurs. C'est pas illogique qu'un étranger, mettons un japonais, veuille protéger le Japon plus que la France. Donc sans le vouloir, mais quand même, on s'est livré à des intérêts étrangers. Qu'est-ce qu'on fait en face de ça ? eh ben on réagit, on met en place des retraites par capitalisation sans se substituer aux retraites par répartition.
Ce que vous voulez dire, c'est que le problème, c'est pas les fonds de pension, le problème, c'est qu'il n'y en ait pas suffisamment de Français.
Mais regardez,
le fonds de pension par principe, est-ce qu'il n'est pas court-termiste? Est-ce qu'il ne vous met pas, vous, les entreprises, dans des situations où vous disiez, à l'instant, si j'avais des actionnaires étrangers, ils me diraient, t'es un grand malade.
Mais moi, j'ai eu dans mon entreprise.
Donc, ils vous diraient, partez.
Qui est resté pendant 12 ans. Donc il y a différentes stratégies dans les fonds d'investissement. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de dire que comme on ne s'est pas donné les moyens législatifs et fiscaux de créer un actionnariat français, on est dépendant pour les entreprises cotées. Le CAC 40, en moyenne, est majoritairement détenu par des actionnaires étrangers. Mais il en va de même pour la dette. La dette italienne, la dette publique italienne, est supérieure à la dette publique française. Oui, à part qu'elle est majoritairement détenue par des Italiens. En France, aux deux tiers, notre dette est détenue par des
donc
étrangers.
Donc on est dépendant davantage, on est plus fragile. Alors,
on est donc dépendant sur le plan technologique, on l'a vu avec l'affaire Anthropic. On est dépendant sur le plan industriel, singulièrement à l'égard de la Chine. On est dépendant financièrement, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, sur la détention du capital de nos entreprises cotées et la détention de la dette française. Alors, à partir de là, on parle pour ne rien dire. Soit on prend des mesures courageuses, ça sera le thème de notre rentrée, de notre ref de fin août, le courage.
Votre soit université d'été...
Soit on prend des décisions courageuses. Et des décisions courageuses, c'est pas de la sueur et des larmes. D'autres pays l'ont fait avant nous. Moi, j'ai pas vu, j'évoquais la Suède.
Mais vous disiez, les politiques français, il y a cette question du discrédit de la parole, disiez-vous. Et puis, vous craignez que rien ne se passe jusqu'à l'élection et que même l'élection elle-même ne change pas grand-chose. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que certains politiques prennent la mesure? Vous dites, la France décroche, elle est déclassée, elle n'a pas pris la mesure des ruptures de notre époque. Quand vous entendez, par exemple, Édouard Philippe à la une de la Tribune dimanche ce week-end qui dit, rien ne justifie le pessimisme français. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Ah mais moi je n'exprime pas un pessimisme, j'exprime une frustration et de temps à autre une colère, parce qu'il y a un gâchis terrible.
Donc on peut être optimiste.
Mais on peut être optimiste, mais il faut appeler un chat un chat. Et moi je crois au bon sens de nos concitoyens. Prenez le cas des retraites. Évidemment, il y a toujours deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Pas de chance, il y a deux tiers des Français, les jeunes particulièrement, qui ne croient plus à l'avenir de nos régimes de retraite. Donc à un moment donné... C'est une prise de risque, j'en suis conscient, mais nous, entrepreneurs, on prend des risques à longueur de journée. Il faut que les politiques prennent leurs risques en disant la vérité et en proposant des solutions. Et en faisant, je dirais, vibrer les Français.
Qui faisait la patate, je retiens la formule. Patrick Martin, une question sur les tests salivaires. Vous l'avez vu, le Premier ministre dit avoir lui-même accepté de faire un test salivaire et qu'il y ait des tests salivaires de manière inopinée et obligatoire dans les cabinets ministériels, mais aussi dans la haute fonction publique. Et pourquoi pas, dit-il, dans les entreprises. Le ministre du Travail que je recevais il y a quelques jours sur RMC disait, je suis prêt même à ouvrir cette question de la drogue en entreprise avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous vous dites, dans n'importe quelle entreprise, au-delà de la question juste de la sécurité ou des entreprises où il y a vraiment une question de sécurité immédiate, est-ce qu'il faudrait, en effet, qu'il y ait des tests salivaires, comme ça, dans les entreprises, pour s'assurer que les employés ne se droguent pas?
Alors, c'est un fléau, dans l'entreprise, comme partout ailleurs.
C'est un fléau, vous le constatez, vous le voyez, ça vous remonte.
Oui. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Un magasinier sur une plateforme logistique est aussi exposé, et parfois de conséquences dangereux pour ses collègues, qu'un ouvrier posté sur une chaîne de production. Moi, ça ne me choquerait pas dans des conditions, évidemment, réglementées.
C'est-à-dire qu'il faut que ce soit effectivement inscrit à l'avance dans le règlement des entreprises pour que ça puisse arriver à tout moment.
Ouais.
Et avec quelles conséquences? Est-ce que vous vous dites, si on constate qu'un de nos employés est effectivement en consommation de drogue, est-ce qu'il faut qu'il puisse être licencié? Est-ce qu'il faut qu'il puisse être accompagné? Quelles seraient les conséquences?
D'abord qu'on lui propose un accompagnement. Le cas échéant, si la situation est critique, qu'on le retire de son poste à titre de précaution. Mais on peut pas laisser les choses en l'état. C'est horriblement dangereux. Écoutez, je crois pas me tromper en disant que de la même manière que pour les accidents de la route, les accidents du travail sont dorénavant en bonne part liés à la consommation de stupéfiants.
Les accidents du travail sont liés à la prise de stupéfiants.
Comme les accidents de la route.
Pour une part plus importante qu'avant.
Oui.
L'alcool a été quand même davantage marginalisé, l'alcool au travail. Oui. Aujourd'hui, vous avez une vraie question autour de la drogue.
Oui.
Merci beaucoup Patrick Martin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président du MEDEF qui se veut quand même optimiste, même si la situation en toute lucidité est difficile. Oui, vous me laissez votre carte sur table, ce que la France ne peut plus ignorer. Allez, je vais avoir de la lecture. Merci à vous, il est 8h47 sur RMC BFM TV.